UMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Cette semaine, nous parlons de Jésus. Nous voulons vraiment laisser toute la place à Jésus et nous attacher à lui de tout notre cœur. Peut-être aussi renouveler notre engagement envers lui, renouveler cette flamme que nous avions pour lui au début de notre conversion. Nous voulons vraiment tout entièrement nous redonner à lui. Et aujourd'hui, parce que vous le savez, il y a comme un vent nouveau qui souffle sur Parole de femme. Le vent a soufflé tellement fort qu'il nous a amené Michaël Lebeau. Bonjour Michaël.
Bonjour mesdames.
Pour la toute première fois sur le plateau de Parole de femme.
Ben oui, hein. Ça fait longtemps que j'attendais une invitation. Il a fallu 3 ans. J'ai vu tout le monde défiler. Je me suis dit, mais pourquoi elle invite lui, elle et moi, pas une seule fois?
Bon, je peux pas garder ça sous silence, c'est pas vrai. Mais je pense que tu n'aimais pas l'ancien décor et que c'est pour ça que tu n'as pas voulu venir. Tu as attendu qu'on vive.
Il a fallu que j'ai une révélation pour venir.
Une révélation.
Qu'un ange du Seigneur m'apparaisse.
Michaël va dans Parole de femme.
C'est ça.
En tout cas, on est vraiment contents. Et puis, c'est sûr, vous n'avez pas l'habitude de voir Michaël dans Parole de femme. Mais Michaël est celui qui a été l'initiateur de cette émission. Et il est aussi l'initiateur de toutes les autres émissions, d'ailleurs, de MCI. Et il est le visionnaire et le président de MCI TV. Alors, c'est un grand honneur pour nous de t'avoir sur le plateau aujourd'hui et tu seras aussi avec nous au cours du live pour célébrer la 1000e, comme on vous en a déjà parlé, la 1000e de Parole de femme. Michaël sera là pour justement revenir sur tout ce parcours, ce beau parcours.
Excellent.
Excellent. Mais on n'en dira pas trop aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est ça, tu es venu pour nous partager cette révélation que tu as eue il y a quelques temps, une révélation qui t'a toi-même bouleversée. Puis à chaque fois que tu l'as partagée, ça a bouleversé, ça a amené beaucoup de changements dans la vie de beaucoup de personnes autour de toi, de Jésus Sauveur et Seigneur. Quelque chose qui t'a frappé après plusieurs années de conversion et qui a amené un souffle nouveau.
Oui, ouais, c'est sûr. Il y a quelques années, j'ai été un peu challengé par le terme « Seigneur ». J'ai vu que dans la Bible, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il n'a fait référence que 4 fois au fait que Jésus-Christ est sauveur. Seulement 4 fois. Et plus de 300 fois, il fait mention et référence que Jésus est Seigneur. Et là, je me disais, mais il y a un malaise parce que dans les églises, et dans nos églises, et depuis ma conversion, tant Jésus, sauveur, 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 crois en ce que Jésus a fait à la croix pour toi, il est mort, il est ressuscité. C'est Jésus le sauveur qu'on présente. On présente les bénéfices du royaume de Dieu, mais on ne présente pas les exigences du royaume de Dieu. On présente peu le moyen de rentrer dans le royaume de Dieu qui est en fait, non pas de faire Jésus le sauveur de sa vie, mais de faire de Jésus le Seigneur de sa vie. Et quand tu fais de Jésus le Seigneur de ta vie, en fait, tu entres dans le royaume de Dieu et le Seigneur, celui qui est devenu ton Seigneur, te sauve. Donc en fait, quand j'ai plongé dans les Écritures, j'ai commencé à chercher dans l'Église primitive quelle était leur compréhension de ce terme Seigneur, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de royaume, on parle de démocratie, de gouvernement, de pays, mais la notion de royaume, elle n'est plus là. Donc la notion de roi, de Seigneur n'est plus là. Mais à l'époque primitive, j'ai réalisé en faisant des recherches que clairement, pour les disciples, les premiers chrétiens, les croyants et les gens de l'époque, le terme Seigneur était plein de sens parce qu'en fait, il y avait des seigneurs partout. Et les seigneurs, c'était des hommes très riches qui avaient en fait des esclaves. Et l'esclave était la propriété de son seigneur. Et le mot, en fait, à l'époque en grec, c'était le mot kurios, kurios ou kyrios, qui signifie Seigneur. Et donc, quand Jésus s'est présenté comme Seigneur, pour eux, c'était évident. Mais nous, aujourd'hui, si on ne revient pas sur ce terme, ça devient juste un nom. Seigneur, Seigneur. Et beaucoup emploient le mot Seigneur, Seigneur, sans comprendre le vrai sens de ce que signifie Seigneur. D'ailleurs, Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ou encore, il dit, plusieurs seront surpris en disant « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Jésus va leur dire ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. » Donc en fait, j'ai réalisé que Seigneur, c'est vraiment au centre de la Bible, mm-hmm. de l'enseignement des apôtres. Mm. Et là, ça a créé une révolution. J'ai commencé à en parler à des pasteurs. J'ai dit, mais on prêche Jésus sauveur, mais en réalité, il faut présenter Jésus Seigneur et Sauveur. Parce que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins d'avoir fait de Jésus le Seigneur de sa vie.
Mm-hmm. Et Dieu, Aurélie ?
Mais quand il parle, je pense beaucoup à la repentance, en fait. Parce que quand on dit de changer justement de vie, c'est d'accepter de se donner à ce Seigneur-là, à ce nouveau propriétaire, là où dans le passé, certainement, on était en train de vivre selon nos propres voies, selon nos propres chemins. Mais changer de vie, se repentir, c'est de dire, mais oui, je veux que toi, maintenant, aujourd'hui, tu deviennes le Seigneur de ma vie. Et quand je t'entends parler, Michael, je réalise que c'est aussi la définition au final du mot repentance, mm-hmm. que quelquefois on n'a tout simplement pas compris, parce que si on comprend que ok, ce changement de vie implique directement un changement de propriétaire, mais là ça va mieux nous aider à définir cette notion de Seigneur.
Mm-hmm. Et tu disais qu'en fait, on présentait beaucoup Jésus comme sauveur et sans les exigences qu'exige finalement la nouvelle naissance, que c'est pas... Oui, c'est un cadeau, oui, il y a de la grâce, mais en fait, il y a vraiment cette notion d'exigence, cette notion de sacrifice et d'abandon, dont quelquefois, on a peut-être peur de parler parce qu'on se dit, bah, peut-être que les gens, ils voudront moins accepter Jésus. Puis juste Jésus sauveur, bah, c'est génial,
c'est cool.
T'as tout gagné, la vie éternelle, ta vie était nulle, maintenant ta vie va être géniale. Et bah voilà, c'est tout, ça se termine là. Puis ça crée beaucoup de déceptions aussi chez les personnes. Et puis ça crée un royaume qui est faible, parce que c'est des ouvriers qui sont très faibles, qui sont très peu équipés. Pardon.
Oui, et c'est terrible de croire qu'en fait, t'es sauvé et d'arriver à ce... J'appelle ce jour le jour de la grande déception. C'est quand Jésus dit... que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », mais n'entreront pas dans le royaume de Dieu, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est qu'à un moment donné, parce que les gens n'auront pas compris ce simple message, que pour rentrer dans le royaume de Dieu et être sauvé, il faut faire de Jésus son Seigneur, ils auront cru en Jésus Sauveur, mais pas en Jésus Seigneur. Et là, ça va être la déception. Ils vont dire « Mais je pensais être sauvé. On m'a dit qu'il fallait croire que Jésus était mort à la croix et qu'il était ressuscité, et j'ai cru en lui. » Et c'est terrible. Et il y aura énormément de déceptions. Certains même vont dire « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Et Jésus va dire « Je ne vous connais pas. » En fait, l'Église est malheureusement remplie de personnes qui n'ont pas eu la révélation que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire de Jésus son Seigneur. Il y a quelques jours, la semaine passée, j'étais à l'extérieur et j'ai croisé un ancien chrétien, un chrétien, qui fréquentait l'Église et il ne la fréquentait plus depuis 2 ans. Mmh. Et il m'a dit que ça lui manquait et on a un peu parlé de son salut. Et il disait, moi, de toute façon, je suis sauvé. Il vit dans la débauche, il fait n'importe quoi de sa vie, il est fier de le dire, mais il dit, mais de toute façon, moi, je suis sauvé. Mmh. J'ai dit, pourquoi tu dis ça ? Il m'a dit, parce qu'à l'Église, on m'a toujours enseigné qu'il faut que je croie en Jésus. Et je crois en Jésus, je crois qu'il est mort à la croix, je crois qu'il est ressuscité. Et là, je me suis dit, mais il n'a pas compris. Le fondement de sa foi, c'est Jésus sauveur. Mais Jésus sauveur ne sauvera jamais personne. Même les démons croient que Jésus est le sauveur du monde et ils tremblent. Mais il faut une repentance. Il faut qu'à un moment donné, tu capitules. Je vais juste vous lire quelques versets, ça va parler. L'apôtre Paul dit, donc lui, il croit qu'il peut mener sa vie comme bon lui semble, mais l'apôtre Paul dit dans Romains 19, version Summer, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc ici, c'est clair, c'est pas si tu crois que Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Sauveur, c'est si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Kyrios, il est Kurios. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Donc c'est là que toute langue confesse, que tout genou fléchisse. À un moment donné, il faut que les personnes capitulent. Et moi, j'ai réalisé que c'est ce que j'ai fait. Ce que beaucoup faisons, on a le cœur touché. Et au moment de notre conversion, il y a comme une lutte, en fait. Il doit y avoir cette lutte. Mm-hmm. Et comme tu disais, Annabelle, on a arrêté de le prêcher et de le prêcher clairement qu'il faut que vous renonciez à votre vie plus loin. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, il doit renoncer à sa vie, il doit porter sa croix, il doit mourir à lui-même. Il dit même, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc, en gros, pour rentrer dans le royaume de Dieu, être sauvé, il n'y a pas 36 façons, il n'y en a qu'une seule. Il faut perdre sa vie. Et moi, je me souviens, je ne sais pas pour vous, mais à un moment donné, au moment où tu rentres dans le royaume de Dieu, tu sais que tu as une décision à prendre. Et la décision, en fait, c'est la décision de simplement, littéralement, perdre ta vie. Il ne faut pas avoir peur de le prêcher, parce que ce n'est pas Jésus a dit, prenez mon joug, il est doux, et je suis humble de cœur. La seigneurie de Jésus, le mot kyrios, seigneur, signifie propriétaire, maître, autorité suprême. Ça veut dire que quand tu fais de Jésus le seigneur de ta vie, tu perds ta vie, tu lui donnes ta vie. Et c'est le mot le plus approprié. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut dire « je donne ma vie à Jésus ». Et beaucoup qui nous suivent, là, ils se retrouvent et disent « oui, j'ai donné mon cœur à Jésus ». Mais donner son cœur à Jésus, c'est en fait faire de Jésus le seigneur de sa vie. Les premiers croyants, ils prêchaient. Ok, vous êtes le propre maître de votre vie. Il y a peut-être un Kyrios très connu, César. Tout le monde disait, ok, à l'époque, il y avait César. C'était le Kyrios, le Seigneur. Mais voici, le vrai Seigneur est venu. Donnez-lui votre cœur. Faites de Jésus, faites plus de César, le Seigneur, le maître de votre vie. Mais maintenant, faites de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, votre autorité suprême, celui qui dirige votre vie, celui à qui vous donnez votre vie, vous donnez votre cœur. Et donc, nous, on a les premiers croyants, ils le faisaient en se faisant baptiser d'eau. Ils s'engageaient. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu fais? Et tu confesses aujourd'hui de ta bouche que ce n'est plus toi le maître de ta vie, ce n'est plus César le maître de ta vie, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je lui donne ma vie. Il est mon roi, il est mon Seigneur. Et je fais du roi, du royaume de Dieu, mon roi, mon Seigneur, et il me sauve. Et à ce moment-là, tu rentres dans le royaume de Dieu et Jésus devient ton maître, ton propriétaire. Et c'est ce qui s'est passé pour moi à ma nouvelle naissance. J'ai eu une lutte intérieure parce que je savais que je devais arrêter de mener la vie comme je voulais. Et j'étais face à Jésus-Christ et que je devais mener maintenant une vie comme Jésus voulait. Donc à un moment donné, soit je continuais dans mes voies mauvaises et je restais dans le royaume des ténèbres avec pour seul chef moi et le diable, même sans que je le sache, ou je décidais de changer de propriétaire et de faire de Jésus-Christ mon Seigneur. Et ce jour-là, j'ai pris cette décision. Ça a été une lutte terrible. Mais boum, je suis entré dans le royaume de Dieu. Je suis né de nouveau. Lorsque Jésus, je lui ai donné mon cœur. Alors, c'est ça. C'est peut-être mettre des mots sur des expériences que les gens ont vécues ou pas vécues.
Ou pas vécues.
Ou pas vécues. Mais il faut donner toute sa vie à Jésus-Christ. Si tu retiens quelque chose, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas naître de nouveau. Il faut vraiment s'abandonner. Et après, si on a le temps, je partagerai en fait cette histoire de l'homme le jeune homme riche.
Tu peux rester toute la semaine, Michael, si tu veux.
Ça.
Mais quand, Michael, tu parles, il y a deux choses qui m'ont beaucoup interpellée dans ce que tu as dit. Et il y a cette partie-là où tu as parlé des chrétiens qui venaient vraiment, ils déclaraient en fait que Jésus, c'est le roi, c'est le Seigneur de leur vie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que nos déclarations sont tellement légères parce qu'on ne pèse pas toute la mesure, justement,
c'est
du
juste
mot
un
Seigneur.
Titre.
C'est ça, c'est juste qu'on dit, OK, je donne ma vie à Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Mais les gens ne savent même pas ce que le mot Seigneur signifie. Si tu viens, si tu demandes à quelqu'un, oui, Jésus, tu l'as accepté comme Sauveur, même Sauveur, ça signifie quoi? Il y a peu de gens qui peuvent vraiment te dire ce que ça signifie. Seigneur, ça signifie quoi? En fait, on ne le sait pas. Donc, nos mots sont devenus tellement légers, en fait, alors qu'à l'époque des premiers chrétiens, ça avait un sens tellement fort et tellement lourd. C'est pour ça que ça a créé une révolution, d'ailleurs.
C'était évident, en fait. Ils n'avaient pas besoin de l'expliquer. C'est pour ça que la Bible ne l'explique pas, parce que c'était évident, c'est un terme évident. Il y avait des seigneurs, c'était des hommes riches, ils avaient des esclaves. D'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches, les esclaves, quand ils écrivaient une lettre, ils commençaient toujours leur lettre par, admettons que je sois esclave de Titus, qui est mon maître, admettons. Voilà, je suis, et j'aurais écrit Michael, esclave de Titus. Et c'est comme ça qu'ils commençaient leur lettre, parce qu'ils ne s'appartenaient plus. Toute leur vie appartenait à un homme qui était leur seigneur. Et l'apôtre Paul, quand on lit ses lettres, il était dans cette même logique. Il disait Paul, esclave de Jésus-Christ. C'était logique pour eux. Il y avait un Kyrios, le grand Kyrios César. Et puis, quand on fait des recherches historiques, on réalise que les gens faisaient « avait César » comme ça. Ça voulait dire « c'est César qui est le Seigneur ». C'est lui qui est le maître de tout Rome, de tout son empire, etc. Et tout lui appartient. Les terres appartiennent à César, votre argent appartient à César, votre volonté appartient à César. Vous êtes la propriété de César. Et c'était comme ça que César a instauré son royaume. Et tout le monde savait ça. Et Jésus est arrivé à cette époque-là. Et il s'est présenté comme le Seigneur. Et là où les Romains, pour identifier les chrétiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient « Ave César » quand ils croisaient les gens dans la rue. Et les chrétiens ne pouvaient pas répondre « Ave César ». Donc quand quelqu'un ne répondait rien, il était suspect. Et puis ils le capturaient parce qu'ils refusaient de dire que César était le Seigneur. Et les chrétiens disaient « Non ». Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur. Au fauve, au bûcher, au lion. Et c'est comme ça que l'Église a été persécutée. Et ce n'était pas rien. Seigneur, c'était ce qui me sauve, en fait. C'est, je lui appartiens. Et à un moment donné, mon roi se lèvera et dira, je lui appartiens. Il est ma propriété et il me sauvera. Je ne paraîtrai pas dans le jugement.
Tu comprends. Mais que face à cette persécution... c'est sûr, si on t'annonce juste un Jésus qui va venir t'apporter un petit bonus dans ta vie, ça vaut pas la peine d'être persécuté et de perdre ta vie. Je pense aux réunions de Finet. Dans ces réunions, on disait que les convictions de péché étaient très très fortes au point où c'était insoutenable. Souvent, quand c'était les parents qui avaient des enfants qui avaient une conviction de péché, c'était insoutenable. Mais c'était des conversions qui duraient en fait dans le temps parce qu'il y avait eu cette séparation du monde, ce moment où tu changeais de vie, tu renonçais à ta vie. Et comme moi aussi, j'ai fait cette expérience ce jour où j'ai été tiraillée. Mais en fait, moi, je l'ai vécu pendant des mois parce que pendant plusieurs mois, je me suis dit, j'aurais pu croire à ce moment-là vraiment que j'avais fait une expérience et que j'avais été sauvée probablement. Jésus Sauveur, et parce que j'allais à l'église à cette époque-là, puis je commençais à prier, je lisais ma Bible, mais il y a plein de choses dans ma vie qui n'avaient pas changé, et en fait, quand même, au fur et à mesure d'entendre le message, ça m'a fait prendre conscience, non, j'ai un vrai choix à prendre, et c'est un choix que j'ai refusé de prendre dans un premier temps, mais après, je me suis dit, non, je suis encore devant ce choix, et comme la Bible dit, je me suis assise, en fait, pendant plusieurs mois, pour calculer la dépense. Est-ce que je veux donner ma vie à Jésus? Est-ce que vraiment, c'est ça que je veux faire? Et quelquefois, on pense tellement conversion radicale qu'on veut que ça aille vite. C'est pas des conversions radicales, c'est des conversions express. Mais moi, le fait d'avoir pris le temps, d'avoir pesé le pour et le contre aussi bien que je pouvais le faire, c'était complètement... ma balance n'était pas très juste. Mais ça m'a permis, quand j'ai pris ma décision, de prendre une vraie décision. Ça. Je savais à quoi je renonçais. Je savais que j'y renonçais. Et je savais que ce n'était pas juste un Jésus qui allait enrichir un petit peu vie, un petit bonus. Au moment où j'ai pris cette décision dans cette église, j'ai dit... Non, je renonce, je laisse tomber cette vie, cette vie, je n'en veux plus, je prends ta vie à toi. Et je crois que on doit prendre, vous devez prendre le temps de vous asseoir si vous ne l'avez jamais fait. Est-ce que j'ai fait cette expérience d'avoir renoncé à ma vie? Et on peut parler du coup du jeune homme riche, parce que ce jeune homme riche, il avait toutes les caractéristiques du bon chrétien en fait. Il va vers Jésus, il pose des questions intelligentes, il a des bonnes réponses, mais pourtant c'est le type même, c'est le modèle même de la personne qui ne va pas au bout de l'expérience.
Ouais, c'est ça. Et on voit, là, j'ai ouvert la Bible dans Marc, au chapitre 10, à partir du verset 17, on parle de cette merveilleuse histoire du jeune homme riche qui ressemble à tellement de personnes qui sont même dans les églises, mais qui n'ont jamais fait cette rencontre avec Jésus Seigneur et qui n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Et on voit cet homme riche, en fait, il se jette aux pieds de Jésus et il demande au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, voilà, tu dois, voilà, tu connais la loi, etc. Tu sais qu'il faut être parfait, maîtriser la loi, appliquer la loi. Et ce jeune homme va dire, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé au verset 21, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Et ce qui lui manquait, c'était cette révélation, que celui qui se tenait en face de lui n'était pas un homme, n'était pas juste un bon maître, mais c'était Dieu lui-même, le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ de Nazareth. J'imagine Jésus en train de regarder cet homme et dire, mais sourd, tiens, tu ne réalises pas qui est celui qui se tient devant toi. Un peu comme Jésus face à cette femme samaritaine qui dit, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, si tu savais qui je suis. Et là, on voit que Jésus va le challenger, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Or, Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et Jésus va le challenger parce que Jésus sait qu'il n'a pas réalisé à qui il parle. Il a l'impression qu'il parle à un grand maître, à un prophète, mais il n'a pas réalisé qu'il a en face de lui son Créateur, en fait. Et le Seigneur de sa vie. Et puis, il va lui dire, en fait, il te manque une chose. Et ce qu'il manquait à cet homme, c'était cette révélation, le fait de suivre Jésus et de faire de Jésus le Seigneur de sa vie, pour avoir l'assurance d'être sauvé. Parce qu'il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel on peut être sauvé que le nom de Jésus-Christ. Et donc il dit, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il continue au verset 24, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et ici, on voit que Jésus emploie ce terme « entrer dans le royaume de Dieu » parce que pour Jésus, c'est clair, tous les hommes sont de le royaume des ténèbres où il y a une seule loi, fais ce que tu veux. Et tu t'appartiens à toi, il n'y a personne au-dessus de toi. Et Jésus, là, présente le royaume de Dieu. Et il dit, il faut quitter le royaume des ténèbres et ce régime où tu vis pour toi et tu fais ce que tu veux pour entrer dans le royaume de Dieu où tu as un roi et Jésus-Christ est ce roi. Donc Jésus dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, avoir la vie éternelle, être sauvé, c'est difficile à un riche. C'est difficile à une personne qui a des richesses. On voit que cet homme, son défi pour, contrairement à nous, c'est pas de quitter une vie de débauche, parce que toute sa vie, il s'est efforcé de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, et la Bible dit que Jésus l'aima. Mais pourtant, son cœur n'appartenait pas à Jésus. Tu peux mener une vie pieuse, tu peux aller à l'église, tu peux faire tout un tas de choses sans avoir pour autant ton cœur qui a été donné à Jésus et que Jésus est ton Seigneur. Et ce jeune homme, il est là face à Jésus. Jésus lui dit, mais il te manque cette chose. Et cette chose, c'est que ton cœur m'appartienne. Ouais. Jésus va lui dire, en fait, Jésus aurait pu lui demander n'importe quoi, mais Jésus va lui demander la chose qui lui coûte le plus. Parce que ce que Jésus veut, lui, c'est son cœur. Il veut que le jeune homme riche ait la révélation que Jésus-Christ, c'est son Dieu, et qu'il lui donne sa vie. Et il y avait une partie du cœur de cette personne auquel il était tellement attaché qu'il ne voulait pas céder, il voulait continuer à faire ce qu'il voulait avec son argent et avec ses biens. Et il y a des choses dans nos cœurs, on ne peut pas juste donner une partie à Jésus, ça ne marche pas. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut vraiment capituler, que nos genoux fléchissent devant lui, dire « Seigneur, ma vie t'appartient ». C'est le critère d'entrée. Et là, ce jeune homme est reparti tout triste. Jésus a mis cet homme face au choix du royaume. Et le choix du royaume, le choix pour entrer dans le royaume de Dieu, ça a été quoi? Ça a été un simple ordre.
Ouais.
Parce qu'en fait, Jésus va voir si on est prêt pour le royaume de Dieu.
C'est ça.
À la manière de comment on va réagir face à ce qu'il va nous demander. Si notre cœur est prêt à entrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire que quoi que ce soit que Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu, nous demandera, on le fera. Donc Jésus nous met face à sa parole. Et comment un cœur réagit face à sa parole déterminera si on est prêt ou pas. Jésus a dit à Matthieu, qui était riche, percepteur d'impôts, il était sur ses tables, suis-moi. Matthieu, à tout lâché et a couru et a suivi Jésus. Il a dit à Zachée, descends de ton arbre, je mange chez toi. Zachée était un grand maître, tout le monde, il avait des serviteurs et tout. Il a tout lâché, il est rentré chez lui, il a dit, maintenant je donne mon argent aux pauvres, je me repens, parce qu'il connaissait ce que le maître Seigneur Jésus voulait, il connaissait son enseignement. Il a décidé de soumettre toute sa vie. Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Mais là, cet homme riche a refusé d'obéir à l'ordre de Jésus. Alors toi, Annabelle, ça aurait pu être laisse ce garçon-là et cette relation-là auquel tu tenais à l'époque où tu voulais peut-être pas abandonner. Bon, c'est peut-être pas ton cas, peut-être mon cas. Toi, Aurélie, c'est peut-être le Seigneur te dit arrête tel péché. Mais là, comment on réagit face à la parole de Jésus? Et Jésus a dit que il sera si on l'aime et si on lui appartient, si on obéit à ses commandements. Quand il envoie sa parole, comment on réagit? Et c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que notre vie est une vie d'obéissance à ce que Jésus dit? Ou quand Jésus parle, en fait, à la limite, c'est comme quelqu'un qui a parlé quelconque, où vraiment toutes ces paroles ont du poids dans ma vie. Et Paul a dit, je finis avec ça, il a donné la définition de ce qu'est un chrétien. 2 Corinthiens 5,15. Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si on prend, comme tu disais Annabelle, la bonne décision, notre conversion n'est pas basée sur le fait que Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité, ça nous a touchés, c'est son amour, il est le sauveur, mais qu'elle est basée sur le vrai et solide fondement. J'ai perdu ma vie et je l'ai donnée à Jésus-Christ, je vis pour lui, je lui appartiens et je vis maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Ben, on reste fidèle toute notre vie parce qu'on sait qui on est et on sait en quoi on croit. Je crois que je ne m'appartiens plus, je lui appartiens.
Amen. Est-ce que pour terminer, tu voudrais prier? Parce que je crois que le cœur de beaucoup bouillonne face à ce choix qui est devant eux aujourd'hui.
Alors, peut-être que tu m'écoutes et le Saint-Esprit a parlé à ton cœur lorsque tu as écouté ces paroles. Tu t'es dit, oui, mais moi, je n'ai jamais vraiment donné ma vie à Jésus-Christ. Je n'ai jamais perdu ma vie. J'ai toujours voulu garder certaines choses et je ne lui ai pas tout abandonné. Aujourd'hui, on est devant Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est vivant et il frappe à la porte de ton cœur. Cette porte, elle est spéciale, la poignée est à l'intérieur. Il n'y a que toi qui peux l'ouvrir. Et aujourd'hui, je veux t'inviter à ouvrir cette porte et à laisser Jésus prendre toute ta vie, à laisser Jésus à entrer pleinement dans ta vie, à tout lui abandonner. Si aujourd'hui tu es prêt à prendre cette décision, tu croyais que Jésus-Christ était le Sauveur et tu le fais bien. Et c'est par amour pour toi qu'il a donné sa vie à la croix, par amour pour toi qu'il a pris ta place et qu'il a été condamné à ta place. Mais ce Sauveur est aujourd'hui le Seigneur de l'humanité. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut que tu lui donnes ta vie et que tu fasses de lui non plus simplement le Sauveur, mais le Seigneur, le Maître, le Dieu, l'autorité suprême de ta vie. Alors fais cette prière avec moi si tu es prêt. Seigneur Jésus, je veux aujourd'hui te demander pardon parce que je n'avais pas réalisé que tu étais le Seigneur. Mais aujourd'hui, je prends cette décision. Je fléchis le genou, je capitule et je te donne toute ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es mon Dieu. Et je fais de toi aujourd'hui le maître, le Seigneur, le Kyrios de ma vie. Tu es mon Dieu et je te donne tout, je t'abandonne tout. Et toutes ces choses que j'ai retenues jusqu'à aujourd'hui, je les délaisse et je les abandonne. Et je me soumets entièrement à ta volonté. Je te donne tout mon cœur. Sauve-moi. Fais-moi entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. Aujourd'hui, je n'appartiens plus au diable. Mais aujourd'hui, je t'appartiens à toi et à toi seul, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Michael. Et si vous avez fait cette prière, je vous encourage à pouvoir vous nourrir, à pouvoir méditer, passer du temps dans la parole. Vous pouvez aussi nous écrire à paroledefemme@emcitv.com ou à témoignage@emcitv.com pour nous dire si vous, aujourd'hui, c'est le jour où vous avez donné entièrement votre vie à Jésus et nous pourrons nous réjouir ensemble. Alors, on se dit à demain pour une prochaine émission. De Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.